Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1919, Franz Kafka a 36 ans. Employé d'une compagnie d'assurance le jour, il écrit la nuit et à cette date a déjà derrière lui l'essentiel de sa production littéraire. Depuis les montagnes de Bohême où il séjourne en compagnie de son ami Max Brod, il écrit à son père une longue lettre que, pour finir, il ne lui remettra jamais. Une lettre d'avocat, précise-t-il dans un échange à son ami Milena, qui met en œuvre, point par point, une stratégie de défense. Mais comme dans l'un des plus fameux récits de son auteur, le procès est perdu d'avance et l'accusé toujours déjà coupable. En mars 1966, pour l'émission Le Livre de Chevet, Dominique Rollin lisait de larges extraits de La Lettre au Père de Franz Kafka.
Le Livre de Chevet. Jean-Vincent Bréchignac vous propose Le Livre de Chevet de Dominique Rollin. Ce soir, Lettre au Père de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert.
Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la peur que tu m'inspires, en partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposée oralement avec une certaine cohérence. Et si j'essaie maintenant de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de façon très incomplète, parce que même en écrivant, la peur et ses conséquences gênent mes rapports avec toi, et parce que la grandeur du sujet dépasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. En ce qui te concerne, les choses se sont toujours présentées très simplement, du moins pour ce que tu en as dit devant moi et, sans discrimination, devant beaucoup d'autres personnes. Tu voyais cela à peu près de la façon suivante. Tu as travaillé durement toute ta vie, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. En conséquence, j'ai mené la grande vie. J'ai eu liberté entière d'apprendre ce que je voulais, j'ai été préservée des soucis matériels, donc je n'ai pas eu de soucis du tout. Tu n'as exigé aucune reconnaissance en échange, tu connais la gratitude des enfants. Mais tu attendais au moins un peu de prévenance, un signe de sympathie, au lieu de quoi je t'ai fui depuis toujours pour chercher refuge dans ma chambre, auprès de mes livres, auprès d'amis fous ou d'idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais allée te trouver au temple. Je n'ai jamais été te voir à Franzensbad. D'une manière générale, je n'ai jamais eu l'esprit de famille. Je ne me suis jamais souciée ni de ton commerce, ni de tes autres affaires. J'ai soutenu Otla dans son entêtement, et tandis que je ne remue pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il s'ensuit que ce que tu me reproches n'est pas quelque chose de positivement inconvenant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage, mais de la froideur, de la bizarrerie, de l'ingratitude. Et ceci, tu me le reproches comme si j'en portais la responsabilité, comme s'il m'avait été possible d'arranger les choses autrement, disons en donnant un coup de barre, alors que tu n'as pas le moindre tort, à moins que ce ne soit celui d'avoir été trop bon pour moi. Cette description dont tu uses communément, je ne la tiens pour exacte que dans la mesure où je te crois, moi aussi, absolument innocent de l'éloignement survenu entre nous. Mais absolument innocent, je le suis aussi. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, il nous serait possible d'avoir, je ne dis pas une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour cela, mais une espèce de paix, d'arriver non pas à une suspension, mais à un adoucissement de tes éternels reproches. Chose singulière, Tu as une sorte de pressentiment de ce que je veux dire. Ainsi, par exemple, tu m'as dit récemment « Je t'ai toujours aimé et quand même, je ne me serais pas comporté extérieurement avec toi comme d'autres pères ont coutume de le faire, justement parce que je ne peux pas feindre comme d'autres. Or, père, je n'ai jamais dans l'ensemble douté de ta bonté à mon égard, mais je considère cette remarque comme inexacte. Tu ne peux pas feindre, c'est juste. Mais affirmer pour cette unique raison que les autres pères le font, ou bien relèvent de la pure chicane, ce qui interdit de continuer la discussion, ou bien, et selon moi c'est le cas, exprime de façon voilée le fait qu'il y a quelque chose d'anormal entre nous, quelque chose que tu as contribué à provoquer, mais sans qu'il y ait de ta faute. Si c'est vraiment cela que tu penses, nous sommes d'accord. Je ne dis pas naturellement que ton action sur moi soit seule cause de ce que je suis devenue. Ce serait exagéré, et je tombe même dans cette exagération. Quand j'aurais été élevée absolument à l'écart de ton influence, il est fort possible que je n'eusse pu devenir un homme selon ton cœur. Sans doute aurais-je tout de même été un être faible, anxieux, hésitant, inquiet, ni un Robert Kafka, ni un Karl Hermann, mais j'aurais cependant été tout autre et nous aurions parfaitement pu nous entendre. J'aurais été heureux de t'avoir comme ami, comme chef, comme oncle, comme grand-père même, encore qu'avec plus d'hésitation, comme beau-père. Mais comme père, tu étais trop fort pour moi, d'autant que mes frères sont morts en bas âge, que mes sœurs ne sont nées que bien plus tard, et que, en conséquence, j'ai dû soutenir seule un premier choc pour lequel j'étais beaucoup trop faible. L'impossibilité d'avoir des relations pacifiques avec toi eut encore une autre conséquence, bien naturelle en vérité. Je perdis l'usage de la parole. Sans doute n'aurais-je jamais été un grand orateur, même dans d'autres circonstances, mais j'aurais tout de même parlé couramment le langage humain ordinaire. Très tôt, cependant, tu m'as interdit de prendre la parole. Pas de réplique. Cette menace et la main levée qui la soulignait m'ont de tout temps accompagné. Devant toi, dès qu'il s'agissait de tes propres affaires, tu étais un excellent orateur. Je pris une manière de parler saccadée et bégayante. Mais ce fut encore trop pour ton goût, et je finis par me taire. D'abord par défi peut-être, puis parce que je ne pouvais plus ni penser ni parler en ta présence. Et comme tu étais mon véritable éducateur, les effets s'en sont fait sentir partout dans ma vie. D'une manière générale, tu commets une singulière erreur en croyant que je ne suis jamais soumis à ta volonté. Je puis dire que le principe de ma conduite à ton égard n'a pas été toujours contre tout, ainsi que tu le crois et me le reproches. Au contraire, si je t'avais moins bien obéi, tu serais sûrement beaucoup plus satisfait de moi. Contrairement à ce que tu penses, ton système pédagogique a touché juste. Je n'ai échappé à aucune prise. Tel que je suis, abstraction faite bien entendu des données fondamentales de la vie et de son influence, le résultat de ton éducation et de mon obéissance. Si ce résultat t'est néanmoins pénible, si même tu te refuses inconsciemment à le reconnaître pour le produit de ton éducation, cela tient précisément à ce que ta main et mon matériel ont été si étrangers l'un à l'autre. Tu disais « pas de réplique », voulant amener par là à se taire en moi les forces qui t'étaient désagréables. Mais l'effet produit était trop fort, j'étais trop obéissant, je devins tout à fait muet, je baissais pavillon devant toi et n'osais plus bouger que quand j'étais assez loin pour que ton pouvoir ne pût plus m'atteindre, au moins directement. Mais tu restais là, et tout te semblait une fois de plus être contre, alors qu'il s'agissait simplement d'une conséquence naturelle de ta force et de ma faiblesse. Tes moyens les plus efficaces d'éducation orale, ceux du moins qui ne manquaient jamais leur effet sur moi, étaient les injures, les menaces, l'ironie, un rire méchant et, chose remarquable, tes lamentations sur toi-même. Je ne me rappelle pas que tu ne m'aies jamais injurié de façon directe ou avec de vrais gros mots. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire. Tu avais tant d'autres moyens à ta disposition et, au surplus, les injures pleuvaient si fort sur les autres personnes de mon entourage, tant à la maison qu'au magasin, surtout au magasin, que, petit garçon, j'en étais parfois étourdi. Je ne voyais pas pourquoi elle ne m'aurait pas été destinée, les gens que tu injuriais n'étant assurément pas pires que moi et ne te donnant sûrement pas plus de mécontentement. Là encore, je retrouvais ta mystérieuse innocence, le mystérieux pouvoir qui te rendait inattaquable. Tu injuriais les gens sans t'en faire le moindre scrupule. Qui plus est, tu condamnais les injures chez les autres auxquelles tu les interdisais. Tu renforçais les injures par des menaces qui, elles, me concernaient bel et bien. Terrible était, par exemple, bien que je ne fusse pas sans savoir que rien de grave ne s'ensuivrait, il est vrai qu'étant petit, je ne le savais pas, ce « je te déchirerai comme un poisson ». Mais que tu en fusses capable, ce serait presque accordé à l'image que j'avais de ton pouvoir. Terribles aussi étaient ces moments où tu courais en criant autour de la table pour nous attraper. Tu n'en avais pas du tout l'intention, mais tu faisais semblant. Et où maman, pour finir, avait l'air de nous sauver. Une fois de plus, telle était l'impression de l'enfant, on avait conservé la vie par l'effet de ta grâce et on continuait à la porter comme un présent immérité. À ce même ordre de choses appartiennent tes menaces concernant les suites de la désobéissance. Quand j'entreprenais quelque chose qui te déplaisait et que tu me menaçais d'un échec, mon respect de ton opinion était si grand que l'échec était inéluctable, même s'il ne devait se produire que plus tard. Je perdis toute confiance dans mes propres actes. Je devins instable, indécis. Plus je vieillissais, plus grossissait le matériel que tu pouvais m'opposer comme preuve de mon peu de valeur. Peu à peu, les faits te donnèrent raison à certains égards. Encore une fois, je me garde bien d'affirmer que tu es seul responsable de ce que je suis devenu. Tu n'as fait qu'aggraver ce qui était, mais tu l'as beaucoup aggravé, précisément parce que tu avais un grand ascendant sur moi et que tu usais de tout ton pouvoir. Il semblait absolument incompatible avec cette position à l'égard de tes enfants que tu pusses te plaindre en public, ce qui t'arrivait pourtant très souvent. Étant enfant, j'avoue que je n'y étais nullement sensible. Je le devins plus tard et que je ne comprenais pas comment tu pouvais t'attendre à trouver de la sympathie. Tu étais si gigantesque à tous égards. Quelle importance pouvais-tu attacher à notre pitié, voire à notre aide? Tu aurais dû, en fait, les mépriser, comme tu nous méprisais si souvent nous-mêmes. En conséquence, je ne croyais pas à tes lamentations et cherchais derrière elles je ne sais quelle intention secrète. Je n'ai compris que plus tard que tes enfants te faisaient réellement souffrir. Mais à cette époque où tes plaintes auraient pu rencontrer encore une sensibilité enfantine ouverte sans réticence et prête à donner toute son aide, elles ne représentaient une fois de plus qu'un moyen par trop évident d'éducation et d'humiliation, moyen sans grande force en soi, mais qui entraînait une conséquence secondaire nuisible, à savoir que l'enfant s'habituait à ne pas prendre au sérieux les choses dont, précisément, il aurait dû ressentir la gravité. Par bonheur, il y avait tout de même des exceptions. Elles se produisaient quand tu souffrais sans rien dire, quand l'amour et la bonté appliquaient leur force à triompher de tout ce qui leur était contraire et à le saisir immédiatement. Certes, cela arrivait rarement, mais c'était merveilleux. C'était, par exemple, quand il faisait chaud l'été et que je te voyais somnoler au magasin après le déjeuner, l'air là, le coude appuyé sur le comptoir, ou bien le dimanche, quand tu venais et rintais nous rejoindre à la campagne, ou bien lors d'une grave maladie de maman, quand tu te tenais à la bibliothèque tout secoué de sanglots, ou bien pendant ma dernière maladie, quand tu entrais doucement dans la chambre d'Otla pour me voir, que tu restais sur le seuil, tendais le cou pour m'apercevoir au lit et te bornais à me saluer de la main par égard pour ma fatigue. À de tels moments, l'on se couchait et l'on pleurait de bonheur et je pleure maintenant encore en l'écrivant. Tu as aussi une façon particulièrement belle de sourire, silencieuse, paisible, bienveillante, un sourire qu'on rencontre rarement et qui pouvait vous rendre très heureux s'il vous était destiné. Je ne me rappelle pas que tu me l'aies expressément accordé dans mon enfance. Mais cela a bien dû se produire. Pourquoi me l'aurais-tu refusé en ce temps-là, puisque tu me jugeais encore innocent et que j'étais ton grand espoir? À la longue, d'ailleurs, ces impressions agréables n'ont pas eu d'autre résultat que d'accroître mon sentiment de culpabilité et de me rendre le monde encore plus incompréhensible.
Dominique Rollin a lu ce soir un extrait de « Lettre au père » de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert. C'était « Le livre de chevet » de Dominique Rollin, une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 mars 1966. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.